Il est 23h, vous écoutez France Inter. Et vous avez rendez-vous avec Alexandra Dubouchereau pour le journal. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Le bilan s'alourdit à 265 morts ce soir en Inde après le crash du vol d'Air India ce matin. 265 morts et un miraculé, un Britannique de 40 ans. Il a pu raconter les derniers instants à bord. Dans ce journal aussi, l'Irlande du Nord retient son souffle après une semaine d'émeutes racistes. Gaza sans internet, sans téléphone après une frappe israélienne. En France, une minute de silence pour la surveillante de Nogent tuée avant-hier. Son meurtrier de 14 ans vient d'être mis en examen. 5 indépendantistes kanaks remis en liberté, on entendra l'un de leurs avocats. Et puis ce coup de pouce pour les parents isolés à la rentrée, les allocations de garde sont étendues.
France Inter.
Les images sont impressionnantes. L'arrière d'un Boeing 787 encastré dans un bâtiment. Le feu, les débris, des bagages. L'avion d'Air India s'est écrasé en pleine zone résidentielle à Ahmed Abad ce matin dans le sud-ouest du pays pour une raison encore inconnue. La compagnie aérienne confirme ce soir sur X qu'il n'y a qu'un seul survivant sur les 242 personnes qui étaient à bord. Un miraculé, un homme de 40 ans qui est rentré chez lui au Royaume-Uni, Laura Calmus.
Oui, on pensait que tous les passagers à bord avaient péri et donc cette information est prise comme une petite lueur d'espoir. Le survivant est un Britannique d'origine indienne qui raconte dans la presse comment tout s'est passé très vite. Il a expliqué avoir entendu un grand bruit 30 secondes après le décollage et que lorsque l'avion s'est écrasé, il a ouvert les yeux, il a vu beaucoup de corps autour de lui. Il est ensuite parti en courant. Et ici, à l'aéroport de Gatwick, beaucoup de journalistes sont venus pour tenter d'en savoir un peu plus sur l'enquête d'une part, mais aussi sur le profil de ses passagers, notamment un couple britannique qui, quelques instants avant de monter à bord du Boeing 787, a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo. Le couple explique que leur voyage spirituel en Inde avait été magique. L'avion devait atterrir ici à 18h25, heure locale. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place à l'aéroport, d'autant plus que les liens entre les deux pays sont très forts. De nombreux Britanniques d'origine indienne voyagent régulièrement entre le Royaume-Uni et l'Inde, ce qui rend cette tragédie particulièrement suivie ici.
Laura Calmus à Londres pour France Inter. À Ahmed Dabad, un responsable de la police locale indique que 265 corps ont été découverts, ce qui signifie donc qu'il y a 24 victimes au sol, en plus des passagers et membres d'équipage. Stop à la violence, c'est l'appel du chef de la police nord-irlandaise aujourd'hui après 3 nuits d'émeutes anti-immigration dans le pays. Il y a une quarantaine de blessés parmi les forces de l'ordre, 15 arrestations, dont 4 jeunes hommes déjà inculpés, des ressortissants étrangers obligés de se cacher pour échapper aux violences. Sur place, le reportage de Clémence Pénard.
Dans le quartier populaire de Clonavon, 3 nuits de violence ont laissé des traces. Fenêtres brisées, portes barricadées et visages fatigués. Karen, originaire des Philippines, finit par nous ouvrir discrètement.
C'était terrifiant. Ils ont lancé des pierres à ma fenêtre et ils ont voulu entrer chez moi. Et s'ils étaient arrivés, qu'est-ce qu'ils m'auraient fait ?
Mary, elle, est indienne. En 16 ans, passée à Ballymena, elle n'a jamais rien vu de tel.
Ils t'attaquent selon ta couleur de peau, c'est aussi simple que ça. Hier, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me protège et je choisis de lui faire confiance.
En plus de prier, Mary, comme beaucoup d'autres, a aussi accroché un drapeau britannique à sa porte dans l'espoir d'échapper aux attaques cette nuit.
Je sais, ces émeutes, c'est pas bien, mais j'espère que ça montre qu'il est temps pour nous de nous lever. On ne peut pas rester les bras croisés pendant que nos enfants sont abusés sexuellement au coin de la rue.
Pour Anne, en revanche, qui a toujours habité ici, ces violences seraient nécessaires.
Et ce n'est pas seulement les Roumains qui posent problème, c'est tous les immigrés illégaux. Le gouvernement doit enfin ouvrir les yeux sur ce qu'il fait au pays. Donc quelque part, on peut dire que tout ça sert à quelque chose.
En vue d'une quatrième nuit d'émeute, des renforts policiers venus du reste du Royaume-Uni ont été mobilisés.
Cette vague de violence raciste a éclaté lundi dans la ville de Ballymena après l'inculpation de 2 adolescents pour tentative de vol. Un 3e suspect a été identifié, c'est ce qu'indique ce soir la police. Retour en France chahuté pour Rima Hassan. L'eurodéputé LFI a atterri à Roissy-Charles de Gaulle ce soir après son expulsion d'Israël et son expédition humanitaire avortée pour Gaza. Des tensions ont éclaté avec des passagers pendant le vol Tel Aviv-Paris. L'élue franco-palestinienne a été ensuite acclamée ce soir, place de la République, à Paris, lors d'un rassemblement pour Gaza. Il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser le blocus, a lancé l'élu. Pendant ce temps-là, la bande de Gaza est coupée du monde. Le réseau téléphonique et le réseau Internet sont hors service depuis une frappe israélienne ce matin. C'est la correspondance signée depuis Ramallah, Alice Moreno.
Plus un seul message, plus un seul appel. Le petit territoire de Gaza ne peut plus donner de nouvelles au monde extérieur. Les ONG sont en état d'alerte. Le Croissant-Rouge, l'UNRWA, n'ont plus de contact avec les membres de leur personnel sur place. Mardi déjà, le nord de la bande de Gaza et Gazaville ont vu leur accès à Internet et aux télécommunications coupés. Et ces dernières heures, c'est le centre et le sud du territoire qui ont également perdu le contact avec l'extérieur. Une attaque d'Israël sur la dernière ligne principale de fibre optique a causé cette coupure géante, selon le ministère palestinien des télécommunications. Le ministère ajoute que ses équipes de maintenance ne peuvent pas accéder aux câbles endommagés pour des raisons de sécurité et précise que les autorités israéliennes ont empêché les réparations sur les lignes de télécommunications à Gaza depuis maintenant des mois.
Et après le veto américain au Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU appelle ce soir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, mais aussi à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire pression sur Israël. Et puis Stéphane Troussel dénonce la présence d'entreprises israéliennes d'armement au Salon du Bourget qui s'ouvre lundi. Le président socialiste du département de Seine-Saint-Denis annonce sur X qu'il refuse de participer à l'accueil protocolaire d'Emmanuel Macron. Le collégien de 14 ans accusé d'avoir tué une surveillante mardi à Nogent en Haute-Marne a été mis en examen ce soir pour meurtre sur personne chargée d'une mission de service public et placé en détention provisoire. Ce jeudi a aussi été une journée d'hommage pour Mélanie, la victime, mère de famille de 31 ans partout en France. Les établissements scolaires étaient appelés à observer une minute de silence. Margot est surveillante dans un collège du Finistère.
Profondément choquée. Parce qu'on parle beaucoup des professeurs depuis un certain moment. Et là, que ça puisse toucher, là maintenant, les vies scolaires et une AED, surtout entourée de gendarmes. Elle a dit au revoir à son fils et bah, en fait, son fils n'est pas attendu à ne pas revoir sa maman le soir. Donc je me mets complètement à sa place, maman de deux enfants. Et je me vois vraiment dans son portrait, dans son parcours. Je suis une ancienne coiffeuse et j'ai pris moi ce métier... Ça fait 8 ans que je suis AED. C'est un métier de cœur qui est devenu un métier de cœur pour justement accompagner les élèves, les aider à grandir. Et qu'en fait, là, demain, on peut maintenant être menacé de mourir demain sur son lieu de travail.
Des propos recueillis par Léo Rosé d'ici Brest-Dizel. Une marche blanche en mémoire de Mélanie est prévue demain soir à Nogent. Il est à nouveau libre après un an de détention provisoire. Le leader indépendantiste Kana Christian Théin a quitté la prison de Mulhouse ce soir, où il avait été incarcéré après les émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie au printemps 2024. Il a été libéré avec 5 autres militants par la cour d'appel de Paris. Enfin, réagit François Roux, l'avocat de 4 d'entre eux.
Ce dossier vient de rentrer dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, dans l'histoire de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Et je ne peux que me réjouir que, enfin, des juges aient compris le fond du dossier. La CCAT avait organisé de très grandes manifestations en Nouvelle-Calédonie, comme il n'y en avait jamais eu, pour protester contre le projet de M. Macron de dégeler le corps électoral. La suite, ce ne sont pas eux qui sont responsables. Nous disons ça depuis un an. Enfin, nous venons d'être entendus. C'est vrai que c'est un peu réconfortant.
Maître François Roux avec Delphine Evenoux. Le Sénat enterre la taxe Zucman, cet impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches. Après le feu vert de l'Assemblée nationale, l'Alliance sénatoriale droite centriste a rejeté ce soir la proposition de loi écologiste. Et puis le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi contre le narcotrafic, y compris le régime carcéral d'isolement pour les détenus les plus dangereux, tout en émettant une réserve sur la question des fouilles intégrales. Les sages censurent en tout 6 articles totalement ou en partie. C'était une mesure très attendue des familles monoparentales promise depuis 3 ans. L'extension du complément libre choix du mode de garde, elle est étendue à partir de la rentrée jusqu'aux 12 ans de l'enfant de parents isolés contre 6 ans aujourd'hui. Un complément qui compte beaucoup pour cette mère d'un garçon de 10 ans célibataire au RSA, Gaëlle. Elle est au téléphone de Luc Chemla.
Il était attendu comme le Messie, puisque la loi a été votée fin 2022. En attendant, la précarité de nos familles a augmenté, la mienne aussi. Sans ce CMG, clairement, je ne peux me projeter sur un travail à temps complet. J'ai même dû renoncer à plusieurs travaux à cause de ça, parce que je n'avais pas de mode de garde. Ça représente un coût, si on prend un emploi à temps complet, par exemple, il faut compter du 800 euros par mois. C'est énorme. Je vis en territoire rural. Nous, le carburant ici, tout, c'est énorme. Ça représente un coût de 400 euros par mois, rien que pour le carburant. On est le 12 juillet, j'ai plus rien. J'ai tout payé. Heureusement, j'ai un bon rapport avec mon banquier, ça n'a pas toujours été le cas. Mais oui, c'est de la survie au quotidien. C'est comme gérer une PME sans ressources, en fait.
Le témoignage de Gaëlle avec Luc Chelmla pour France Inter, Le Temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Élodie Callac de Météo France.
Très chaud demain, mais orageux. La journée débutera sous le soleil. Un peu de grisaille tout de même vers le Languedoc-Roussillon et déjà quelques averses, voire un orage sur la Bretagne et la Vendée. Le thermomètre affichera encore 16 à 20 degrés le plus souvent, moins sur le nord-ouest, 13 à 16. L'après-midi, la chaleur montera d'un cran. Ce sera la journée la plus chaude de cet épisode. Il fera souvent 30 à 35 degrés, localement 36 dans l'est. Ce sera moins chaud sur le nord-ouest avec 22 à 30 degrés. Mais attention, dans l'après-midi et en soirée, de la Bretagne et des Pays de la Loire vers la Normandie, la région parisienne, puis les Hauts-de-France, le ciel deviendra chaotique, avec des orages parfois violents, beaucoup de pluie, un peu de temps, de la grêle, de fortes rafales de vent. Et puis sur le sud-ouest, on surveillera d'autres orages pour la soirée, avec de fortes pluies, de la grêle et des bourrasques.
Ce samedi sur Inter...
C'est quoi la programmation ?
La radio de...
Yamé, tout simplement. Et je fais ce que je veux, les gars.
Pendant une heure, les artistes partagent la playlist de leur vie.
Des chansons qui m'ont fait grandir, des musiciens qui m'ont influencé. Un art, ça ne se pratique pas juste, ça s'apprend, ça s'explore, ça se maîtrise. La radio de Yamé.
C'est ce samedi sur Inter, à partir de 21h.
Et tout de suite sur France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire de la bande qui a semé la terreur dans Paris occupé, la Carlingue. Ils sont gangsters, trafiquants, voleurs, escrocs. Mais en 1940, sous l'occupation, ils prennent le pouvoir. Rien que cela, c'est l'enfer, la pire des situations. Avec la bénédiction des nazis, cette engeance s'arme, s'enrichit, torture et traque résistants et juifs au service de l'occupant. À leur tête, Henri Lafont, voyou de la pire espèce, et Pierre Bonny, ex-policier véreux, passé de l'autre côté de la loi. Leur quartier général est un hôtel particulier du 16e arrondissement, au 93 rue Lauriston, Palais du Crime. Retour donc en 1940, au cœur d'un Paris renversé, où la pègre revêt l'uniforme, où la collaboration devient business et où le crime se part des atours du pouvoir. Disons-le tout net, ce récit est une plongée dans la lie de l'humanité. Notre invité aujourd'hui, David Alliot, auteur de La Carlingue, livre publié en 2024 aux éditions Talendier. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Florence de Talouette, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Juin 1940, la France s'effondre sous l'avancée des troupes allemandes. Dans l'ombre de l'occupation, des opportunistes flairent le bon coup. Parmi eux, un certain Henri Chamberlin, mieux connu sous le nom d'Henri Lafont. Cet homme de 38 ans a un lourd passé de petit escroc, une vie de combiné de coups tordus et des années de prison derrière lui. Aujourd'hui encore, il purge une peine pour vol à la prison du Cherche-Midi. Mais cette fois, en 1940, c'est sa chance. Car à l'époque, la prison est un véritable nid d'espions. Lafont y fait la rencontre de Max Stöcklin, un agent double suisse qui opère pour les nazis. Ce dernier le prend sous son aile. Le 10 juin, alors que les Allemands avancent vers la capitale, l'ordre tombe, la prison doit être évacuée. Près de 300 détenus s'entassent dans des bus et partent vers Montargis. Les gardiens, dépassés, peinent à contenir le tumulte. L'encadrement se délite et, profitant du chaos, Lafont et son nouvel ami disparaissent dans la nature. Leur plan est tout trouvé, se livrer aux Allemands. Arrêtés à Nemours, ils sont menés quelques jours plus tard à l'hôtel Lutetia où les renseignements nazis, la VER, ont élu domicile. Déjà connu des services, Stöcklin retrouve immédiatement sa place. Et Lafont, eh bien, il intrigue. Et puis son profil plaît. Roublardise, absence totale de scrupules. Pour les Allemands qui ont besoin de soutien locaux français, capables de naviguer dans les cercles interlopes, c'est le candidat idéal. Lorsque Lafont ressort de l'hôtel Lutetia ce jour-là, il a dans sa poche une première liasse de billets, une protection des nazis et le fameux Ausweis, le laissez-passer allemand, un chèque en blanc pour ses futures actions. Habitué des combines minables, l'ancien petit voyou est sur le point de devenir un rouage central du crime sous l'occupation. Mais pour le devenir, il lui faut des hommes, et il sait où les trouver. Escorté par deux soldats allemands, il pousse les portes de la prison de Fresnes. Dans le téléfilm 93 rue Lauriston, diffusé sur Canal+, la scène y est racontée.
Un jour, mon patron a débarqué à Fresnes. J'étais en pension depuis pas mal de temps, et pour encore pas mal de temps. Il a débarqué avec une demi-douzaine de fridolins galonnés. Il a fait aligner les tolards, dont Bibi, et il a fait son marché. Celui-là, oui, celui-là, non, toi, toi. Quand il m'a fait mettre de côté, j'ai dit merci, monsieur. Il a dit merci, patron. Puis il a déclaré, je suis Henri Lafont, ex-tolard. Vous allez travailler avec moi. Si vous êtes réglo, je ferai de vous des hommes plans as. Sinon, vous regretterez la tôle. Vive le patron qu'on a tous gueulé.
Lafont veut des voleurs, des receleurs, des experts du crime. Il repart avec 5 hommes. 2 jours plus tard, il revient. 21 prisonniers s'ajoutent à sa liste. Braqueurs, trafiquants, un antiquaire pour évaluer les œuvres d'art volées, puis un spécialiste des stupéfiants et un ancien flic pour la logistique. Fresnes devient le vivier de l'ignominie. Le 9 juillet, Lafont rend une dernière visite à la prison. Et là encore, il pioche. Les gardiens le regardent, impuissants. Jamais un civil n'a vidé une prison avec autant d'assurance. La carlingue prend forme. Le ministère de la justice française fulmine. À l'hôtel Majestic, les hauts gradés allemands ne cachent pas non plus leur irritation. Parce que cette situation est totalement en dehors du cadre prévu par l'armistice. Donc, l'affaire remonte jusqu'à Friedrich Rudolph, le chef des renseignements allemands. Vieil officier à la rigueur prussienne, il réprouve ses méthodes. Donc, Henri Lafont doit être arrêté. Oui, sauf qu'il a des antennes partout. Et il disparaît avec ses hommes. Direction Bordeaux. À peine commencées, ses affaires avec les Allemands semblent déjà compromises. Mais la chance ne l'a pas encore abandonné. Il apprend qu'un haut responsable des services secrets belges est activement recherché par les nazis. L'homme, dénommé Lambrecht, se cacherait à Toulouse. Le problème pour l'occupant, c'est que Toulouse est en zone libre. Et bien qu'à cela ne tienne, Lafont agit de son propre chef. Accompagné de fidèles lieutenants au surnom taillé pour la rue, Adrien Le Basque et Joël Arigole, il met le cap sur la ville rose. Ses réseaux dans le milieu font le reste. L'espion belge est localisé, le traquenard est tendu. À la sortie de son immeuble, il est assommé. On l'enfourne dans le coffre d'une Citroën Traction, direction Paris. Livré pieds et poings liés, les services allemands sont stupéfaits. Même le rigide colonel Rudolph s'incline devant tant d'audace. L'interrogatoire de Lambrecht entraîne l'arrestation de plus de 600 personnes à travers l'Europe. Un triomphe pour les nazis et un triomphe pour Lafont, qui se hisse comme un auxiliaire incontournable des Allemands. Il prouve ainsi qu'il peut frapper vite, fort et discrètement. Mais pour ça, il a besoin d'argent. Or, la France est riche et l'Allemagne, elle, manque de tout. Métaux, caoutchouc, textiles, vivres. Lafont va donc s'engouffrer dans une nouvelle manne financière qui permet aux Allemands de s'enrichir, les bureaux d'achat. Jacques Delarue, ancien commissaire divisionnaire et historien, explique.
Les Allemands ont créé des sociétés d'État, qui sous des apparences tout à fait anodines, vont être chargées de piller tout ce qu'il y a à prendre en Europe. Et ils s'aperçoivent très vite qu'il y a des stocks cachés, que les Français sont des brouillards. Alors on crée donc des officines qu'on va baptiser bureaux d'achat, qui vont avoir la charge de détecter des stocks cachés, même d'encourager directement des industriels à produire. Tout les intéresse. Des produits de première nécessité, des textiles, du cuir, mais aussi pour alimenter les messes d'officiers, du foie gras à la tonne, du champagne, des vins de toute nature, des tapis et jusqu'à des pierres tombales.
À la tête de ces bureaux d'achat, l'Abwehr engage, moyennant de faramineuses commissions qui en feront les rois de Paris, les Français, les apatrides. Le plus fameux d'entre eux, Henri Chamberlain, alias Lafont, prendra ses quartiers au 93 de la rue Lauriston. Des cellules, des baignoires ont été aménagées dans les caves, car pour débusquer les stocks, tous les moyens sont bons. Le chantage, la torture.
Plutôt que de réquisitionner directement les Français, ce qui pourrait provoquer du mécontentement, les Allemands préfèrent passer par des intermédiaires. C'est ainsi que sont créés les bureaux d'achat tenus par des Français qui achètent des marchandises en francs à un prix supérieur au marché sans poser de questions sur leur provenance, puis revendent ces produits aux Allemands à un tarif 4 fois plus élevé. Par ici la bonne affaire, Henri Lafont se glisse dans cette manne financière. Il ouvre plusieurs bureaux et pour les Allemands, c'est le plein de marchandises. Pour Lafont, ce sont bientôt des millions qu'il ramasse grâce à ce marché noir institutionnalisé.
À Auteuil, à Longchamp, dans les restaurants, les bordels, les boîtes chics, M. Henri est toujours d'une parfaite élégance. Il est un intime de la plupart des hauts dignitaires allemands à qui il offre des voitures, des femmes, de jeunes et faibles, des toiles de maître. Le patron se fait fort de satisfaire tout le monde. M. Henri peut tout à Paris, faire libérer un tel, obtenir toutes sortes d'autorisations spéciales sur un simple coup de fil quand il faudrait des jours entiers de démarche, des piles de paperasse généralement inutiles.
Lafont rend donc service à des quantités de gens, mais ses missions principales restent celles qu'il offre à l'occupant, de façon plus ou moins périlleuse. Or, les Allemands veulent étendre leur réseau de renseignements en Afrique du Nord. Ils veulent installer des émetteurs clandestins à Alger pour assurer une liaison directe avec Paris. Il s'agit bel et bien d'une opération d'espionnage allemand en territoire vichyste. Car malgré la collaboration des Français, l'occupant restait sur sa garde. Lafont accepte la mission. Il part avec Paul Clavier, son neveu, Pagnon, un truand de son entourage, et Venturini, un ancien compagnon de détention. Avec eux, deux sous-officiers allemands sont chargés du volet technique. Arrivés à Alger, ils achètent une villa au Cap Doumia, à 80 km de la capitale, où ils installent des émetteurs Morse. En janvier 1941, les premiers messages sont envoyés à Paris. Mais ces malfrats ne sont pas des agents secrets. Ils fréquentent le milieu algérois, jouent les caïds, se livrent à leurs habitudes de truands. Pagnon particulièrement est imprudent. Et il attire l'attention des services de Vichy qui très vite découvrent la planque, évidemment. Et l'opération tourne au désastre. Clavier et les officiers allemands s'enfuient de justesse vers la France. Pagnon et Venturini sont arrêtés. Ce dernier est fusillé. Pagnon, lui, s'en sort avec 4 mois de prison. Lafont, qui se trouve alors à Marseille, échappe à l'arrestation. Il est néanmoins condamné à mort par contumace pour intelligence avec l'ennemi. Foudrage, il tient Pagnon pour responsable et le fait incarcérer 8 mois à la prison de la Santé à son retour à Paris. Malgré ce fiasco, les Allemands continuent de soutenir Lafont. Ils décident même de le naturaliser allemand. Une manière de le soustraire à la justice française. Lafont est promu capitaine de la Wehrmacht. Mais la feuille de route est claire. Les Allemands veulent plus d'efficacité. Fini le n'importe quoi des débuts, il faut discipliner la bande. Et c'est ici que Bonny entre en scène. Autrefois surnommé le premier flic de France, l'homme a de la bouteille et connaît les méthodes strictes de la police. Il y a brillé avant de sombrer dans la corruption. Ses compétences passées complètent parfaitement le chaos criminel de Lafont. Mais, pour les truands, Bonny fait tâche dans le décor. Émile, ancien membre de la Carlingue, le décrit ainsi dans un procès-verbal daté du 16 juin 1945, conservé aux archives de la préfecture de police de Paris.
Le seul que je n'aimais pas dans cette bande, c'était Bonny, l'ancien flic. Pas parce que c'était un flic, hein, mais parce que c'était un emmerdeur. Un type de bureau, toujours à t'emmerder avec des rapports, un bureaucrate, quoi. Je l'ai jamais vu faire une fête, ni avec les femmes, à rien. Il buvait un peu, pas beaucoup. Souvent, il avait des manches en lustrine, comme un gratte-papier, à se demander pourquoi il était là.
Deuxième changement opéré pour professionnaliser la carlingue, les locaux. Lafont et Bonny s'installent au 93 rue Lauriston, un hôtel particulier appartenant à un juif polonais naturalisé américain. Réquisitionné avec l'aval des Allemands, le bâtiment est situé en plein cœur du 16e arrondissement, ancien terrain de jeu des truands, désormais bastion de la collaboration. Il offre discrétion, sécurité et proximité avec les services allemands. Désormais, l'équipe de la rue Lauriston est intouchable. Ainsi, voler devient une saisie, le racket une mise à l'amende et le cambriolage une perquisition. D'ailleurs, hôtel, cabaret, maison de jeu, tout passe sous le contrôle de la rue Lauriston. Les méthodes sont imparables. Des hommes de Lafont s'installent, consomment sans payer, déclenchent une bagarre. Quand le propriétaire est à bout, Lafont arrive en sauveur, lui propose sa protection contre une part, évidemment, de son chiffre d'affaires. Et s'il refuse, les menaces s'enclenchent. L'arnaque aux faux policiers également fait des ravages. Des hommes de la carlingue, déguisés en agents, surgissent en plein trafic d'or ou de devises interdites. Ils arrêtent tout le monde, confisquent l'argent, puis disparaissent avec le butin. Et puis il y a les juifs, évidemment. Proie de choix. Leurs biens sont pillés dès qu'ils sont raflés. Appartements, commerces, objets de valeur. Les Allemands laissent la carlingue faire le sale boulot, moyennant une part du butin.
Tu cherches quoi ?
Toujours dans les chambres à coucher. Je les connais comme si je les avais fait. Hé, hey, serre-toi ! Ça, c'est de la gratte. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais ta mijaurée, là ?
Pourquoi je veux avoir ces gens ?
Quel con, tu voles pas ces gens, tu voles les frites. Tout va partir pour la Bocheland, tout et les proprios avec. Personne ne reviendra jamais. Alors tu te sers et tu fais pas chier. Tu glisses la main dans la poche d'un youp, c'est Göring lui-même que tu fais marron. Verstand, t'as compris ?
L'impunité de la carlingue est totale. Et elle ne va pas s'arrêter là. L'année 43 marque un basculement. À l'Est, les combats contre l'URSS s'enlisent, loin de la guerre éclair espérée. Bientôt, les États-Unis ouvrent un nouveau front en Europe. Débarquement en Sicile, puis en Italie, l'étau se resserre sur l'Allemagne nazie. Les dépenses allemandes explosent et l'économie de pillage organisée en France arrive au bout de sa logique. Les bureaux d'achat ont vidé la France de ses ressources et fait monter les prix en flèche. En mars 1943, un accord entre Vichy et Hitler acte leur fermeture. Parallèlement, l'intensification des actions de la résistance pousse Berlin à envisager une répression plus dure. Désormais orpheline des bureaux d'achat, la carlingue trouve une nouvelle place dans l'ombre de la Gestapo allemande pour des actes de plus en plus ignobles.
Les bruits sourds qui nous parviennent de l'appartement. Troisième, empêche l'immeuble de dormir. On m'a chargé de vous écrire. Ces gens-là sont différents. Je ne reconnais pas leur accent. Que va devenir notre France si l'on ne peut pas dire ce qu'on pense? J'entends déjà sur la plaine. Je me comprends, comprenez-moi. De mon temps, ce n'était pas comme ça. On réglait ce genre de problème à coups de matraque et de chaîne. Ils voudraient s'asseoir sur nos souches, nous voler le pain de la bouche. Ce qui cause mon tourment, que vont-ils faire à mes enfants? J'entends déjà sur la plaine, le vol noir de jet, toujours les corbeaux reviennent.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la carlingue.
Affaires Sensibles.
D'abord, comment savoir qu'on était du mauvais côté, hein? Tout le gratin se pressait rue Lauriston et voulait en croquer. Les cahiers de la politique, du commerce, de l'industrie. Les artistes, les vedettes, les journaleux. Tout, c'est un petit service, une petite faveur à demander.
Fabrice Drouel.
Avril 1943. Le réseau Combat, l'un des plus importants mouvements de résistance, élabore un plan audacieux. Faire évader leur chef, Jacques Renaudin, détenu à Fresnes. L'idée est la suivante. Convaincre ses geôliers qu'il peut identifier un immeuble où se cacheraient des résistants, mais dont il ne se souvient que de la façade. Pas d'adresse exacte. Les Allemands mordent l'hameçon et acceptent de l'extraire de Fresnes pour une reconnaissance sur le terrain. Le 5 avril 1943, Renaudin est escorté dans Paris. Mais le réseau Combat prépare une embuscade au 27 avenue du Maréchal Lyoté dans le 16e arrondissement. Objectif, attaquer l'escorte et libérer le chef. Au sein de Combat, il y a Marouge, un étudiant du quartier latin, discret mais ambitieux, qui joue double jeu. Quelques mois plus tôt, il avait été approché par Lafont, qui l'avait convaincu d'intégrer Combat en se faisant passer pour un patriote engagé. Son apparence banale, son aisance à se fondre dans le paysage en font un agent idéal pour infiltrer les réseaux clandestins. Extrait du procès-verbal de Barongin.
Vers le début de l'année 1943, l'idée me vint d'obtenir un laissez-passer de nuit, afin de circuler librement même après l'heure du couvre-feu. Je m'adressais à un docteur que je connaissais. Je savais qu'il fréquentait le siège de la Gestapo à Paris. Quelques jours après, il m'a mis en rapport avec Lafont. Durant cette période pendant laquelle j'étais en rapport avec ce service, j'ai fourni des renseignements sur diverses affaires.
Jouant parfaitement son rôle, il gagne la confiance des résistants et parvient à obtenir des informations cruciales sur l'action prévue ce 5 avril 1943. Dans la nuit du 4, les hommes du 93 rue Lauriston prennent position. Mitraillette en main, ils cernent l'immeuble, postent les hommes à chaque étage. À l'aube, les résistants tombent dans le piège. L'un après l'autre, ils sont capturés et remis aux Allemands. Et c'est la déportation qui les attend. Coup de maître pour Lafont et Bonny, qui assoient encore davantage et toujours plus leur pouvoir dans l'appareil répressif nazi. Alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Marongin lui intègre le mouvement Défense de la France, qui distribue l'un des principaux journaux clandestins de la résistance. Grâce à lui, la carlingue obtient les noms et adresses des responsables. Bonny et Lafont organisent alors une vaste opération d'arrestation. Le 20 juillet 1943, la librairie du 68 rue Bonaparte est investie, car elle sert de boîte aux lettres au réseau. Dès l'ouverture, les hommes de Bonny sont sur place. Tous ceux qui entrent sont fouillés. Parmi eux, une jeune femme, nom de code, Galia.
Quand j'ai entendu le maréchal Pétain le 17 juin, je ne pouvais pas croire que c'était le maréchal Pétain. Et mon père m'a dit, hélas. Et de ce moment-là, j'ai trouvé insupportable la défaite, l'armistice. Je me souviens encore, ça me brûle encore aujourd'hui, d'une humiliation terrible. J'avais 19 ans, je ne savais pas du tout quoi faire. Mon véritable engagement date de 41. Puis après, finalement, plus tard, en 43, avec le mouvement Défense de la France. Et je ne l'ai jamais regretté.
Et cependant, vous avez été arrêté en juillet 43.
Oui, j'ai été arrêté en juillet 43. Mais vous voyez, nous nous posions beaucoup la question de la torture. Parce que les camps de concentration, on ne savait pas vraiment du tout ce que c'était. Et quand nous nous sommes trouvés dans un camp de déportation, nous avons compris tout à fait alors ce qu'était vraiment le nazisme. Nous étions là au cœur du problème. Et je me suis dit, eh bien, comme on a bien fait de combattre comme on a combattu.
Ce jour-là, dans la librairie, Geneviève de Gaulle, que vous venez d'entendre, alias Galia, nièce du général, est arrêtée. Les nazis la déportent à Ravensbrück, mais la gardent en vie. Trop précieuse, elle devient une monnaie d'échange. Et c'est un coup terrible pour la résistance. Des cellules entières du réseau tombent, les unes après les autres. Marongin savoure sa victoire, mais il ne tarde pas à comprendre qu'il n'est qu'un pion. Pour les Allemands, en effet, il en sait trop. Il devient donc un risque. Jugé grillé, et pour éviter qu'il ne parle ou ne retourne à sa veste, il est déporté dans le camp de concentration de Neuengamme, près d'Hambourg. Fin de partie. Vaille que vaille, la résistance continue à grignoter du terrain. À Montbard, petite ville de la Côte d'Or, 6 corps mutilés sont retrouvés gisants près du lieu-dit La Haute Muraille. Ce sont les corps d'agents français travaillant pour la Gestapo allemande de Dijon. Le message des résistants est clair, mort aux traîtres. Dépassés, les Allemands réclament des renforts à Paris. La Carlingue est chargée de mener une expédition punitive. Le 7 septembre, une escouade d'une trentaine d'hommes quitte Paris. À sa tête, Lafond, en grand uniforme allemand, flanqué de Bonny. Le 13 septembre, ils arrivent en ville. Un témoin se souvient.
Il était 3h de l'après-midi quand les voitures de la Gestapo arrivèrent à Montbard. Toutes les issues de la ville furent occupées par des hommes en armes. C'étaient des Français. Ils se sont acharnés contre les commerçants de la ville, accusés de ravitailler les maquisards. Ils ont tout saccagé, tout cassé, tout pillé. L'homme qui dirigeait les opérations était grand, svelte et portait des lunettes fumées. C'était Pierre Bonny.
Le soir même, les véhicules de la Carlingue quittent Montbard avec 20 prisonniers. Pour Lafond, cette expédition est une révélation. Fini les petites razzias, il veut créer une armée. Il imagine alors un corps expéditionnaire de 50 000 hommes. Une folie mégalomane qui trouve son écho chez les Allemands, en quête de supplétifs toujours plus ailés, alors que la résistance, elle, gagne en puissance en ce début d'année 44. Une rencontre est organisée avec Mohamed Al-Mahdi, un indépendantiste algérien proche des nazis. L'idée est de recruter des volontaires d'origine nord-africaine et Lafond sera leur capitaine.
Il souffle, hélas, sur la France, un vent de folie criminelle. Des jeunes bandits communistes et gaullistes rejoignent les maquis terroristes. Notre ami Lafond, qui a l'énergie et l'expérience propre à vaincre dans ce genre de lutte, propose de mettre sur pied une brigade avec pour mission ramener le calme et l'ordre dans les campagnes.
Cher ami Lafond, si dans, disons, 3 mois, l'exoncide n'est pas sûr, nous appliquerons aux paysans français le régime que nous appliquons aux Moujiks en Russie. Et ça, c'est clair?
Tout à fait, colonel.
Sur dérogation exceptionnelle, le Reichsführer Heinrich Himmler, élève Henri Chamberlain, dit Lafond, au grade de capitaine dans la Waffen-SS. Heil Hitler! Heil Hitler!
Mais les espoirs de Lafond sont vite déçus. Seuls les voyous, proxénètes et criminels, répondent à l'appel, alléchés par un salaire de 5000 francs par mois, le double de celui d'un ouvrier. Ils ne sont finalement que quelques centaines d'hommes. Alors, on attribue à chacun un uniforme, mais alors tout à fait composite, assemblage disparate d'un pantalon de la Wehrmacht et d'une vareuse de l'armée française, direction la Dordogne et la Corrèze, où la résistance est la plus active. Dès leur arrivée, ils sèment la terreur. À Brive, l'hôtel Saint-Martin, QG de la Gestapo allemande, se transforme en chambre de torture contre les maquisards. Très vite, Lafond se heurte à un problème des plus terre-à-terre, le ravitaillement de sa troupe. Il débarque alors chez le préfet Trouillet, tout sourire, et réclame vin, pommes de terre et même chemise. Le préfet y voit une chance de négocier. Un sinistre troc s'établit alors, 200 litres de vin contre 12 prisonniers libérés, une tonne de pommes de terre contre 17. 10 kilos de confiture contre 5 vies. Mais la résistance ne laisse pas faire et les embuscades se multiplient.
Les poches, les poches, là, les poches.
Le 2 avril, un convoi de la brigade roule sur une route départementale. Prise en embuscade par un groupe de maquisards, une violente bataille éclate. Les résistants, inférieurs en nombre et mal armés, finissent par décrocher, se disperser dans la forêt. Mais le bilan est lourd. Plusieurs blessés et morts du côté de la brigade. Lafond voit rouge. La commandante autour de Tulle prend alors une décision radicale. 50 otages doivent être exécutés. Le préfet Trouillet intervient. Si ce massacre a lieu, l'opinion publique locale risque de basculer définitivement du côté du maquis. C'est son argument. Et il fonctionne. Seuls 5 prisonniers seront fusillés. Dans sa mégalomanie habituelle, Lafond se vante d'avoir sauvé 45 vies. Et peu à peu, la brigade se rend compte qu'il est plus rentable de piller les châteaux de la Dordogne que d'affronter le maquis. Alors les tensions avec le préfet s'aggravent. Il les consigne, jour après jour, dans son journal.
Misère de la grande armée allemande, tombant jusqu'à recruter les déchets de tous les pénitenciers d'Europe. Quand je dis à Lafont que je sais pour le pillage des châteaux, veut-on savoir ce qu'il me répond après une seconde à peine d'hésitation ? Ah ! Les vaches du maquis, ils ont trouvé le joint. Ils habillent leurs voitures avec les numéros des miennes pour camoufler leurs sales coups. Je ne les aurais pas cru aussi intelligents.
Et alors que Lafont et ses hommes poursuivent leur violence, la résistance intensifie ses actions. Le 20 mai, la panique gagne le QG de Lafont. Une attaque du maquis sur Tulle se prépare. Les Allemands et la brigade se retranchent, prêts au siège. Mais il ne se passe rien. N'empêche que la peur a changé de camp. Lafont décide de partir à Paris pour rencontrer l'état-major allemand, dit-il. En réalité, il fuit. Le 28 mai, les hommes de Lafont quittent Tulle, comme le rapporte le préfet.
Nous avons salué ce matin le départ inattendu des troupes de Bonnie Lafont. Dans les camions, s'entassait un invraisemblable bric-à-brac, d'où émergeaient meubles et tableaux, fruit incessant du pillage que la bande pratique depuis 3 mois. Bonnie est venue me faire ses adieux, l'air cérémonieux et funèbre. Quand je l'ai sondé sur les raisons de son changement de garnison, il est resté évasif. En me quittant, il a eu une phrase qui en dit long sur ses espérances de longévité. « Mon existence est trop dangereuse pour que nous puissions nous dire au revoir. »
Le préfet est soulagé. Mais 2 semaines plus tard, les SS investissent la ville. 99 hommes sont pendus au balcon et réverbères, laissés exposés pendant des heures pour terroriser la population. 149 autres sont déportés à Dachau. Au même moment, le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Les jours de l'occupation sont comptés. Tandis qu'à Paris, la carlingue n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sans cadre ni direction, les hommes du 93 rue Lauriston s'enfuient, les rats quittent le navire, quand d'autres sombrent dans une violence incontrôlée. C'est le cas de Paul Clavier, le neveu de Lafont. Fin juillet 1944, il séquestre Gisèle de Rieux, une actrice parisienne. Il veut la combinaison de son coffre, elle refuse. Il la torture, la viole, la tue. Son corps est démembré, bouilli, jeté dans la Marne. Lafont et Bonnie n'ont plus de contrôle sur rien. Le premier convoque son carré de fidèles et prononce un dernier discours, comme le raconte le fils de Bonnie dans ses mémoires.
Lafont réunit tout le monde et prononce un discours genre « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères », expliquant que la situation était plutôt mauvaise, mais qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Tout s'arrangerait. Il leur ferait signe quand cela irait mieux. Là-dessus, bonne chance et bien le salut chez eux. Des adieux dignes de ceux de Fontainebleau. Moins Napoléon.
À l'aube du 20 août 1944, Bonnie et Lafont filent vers le Loiret où ils trouvent un refuge dans une ferme qu'ils ont achetée en prévision d'un repli. Là, ils tentent de se faire oublier, le temps d'organiser leur fuite vers l'Espagne, puis l'Argentine. Pendant ce temps, Paris bascule. Le 21 août, l'armée américaine s'empare du 93 rue Lauriston. Là où tant d'atrocités ont été commises, un laboratoire photomilitaire est installé. L'heure de la justice approche. Le juge d'instruction François Dosimini ouvre officiellement une enquête sur la carlingue. Parmi les anciens fidèles de Lafont, Joan Novici comprend que l'heure est venue de sauver sa peau. Opportuniste jusqu'au bout, il choisit de retourner sa veste et livre aux enquêteurs des informations précieuses sur la cachette de plusieurs gestapistes. Mais pour Lafont et Bonnie, il ne sait rien. Heureusement, un obstacle de taille compromet le plan de Lafont et Bonnie. Leur Bentley 21 chevaux est réquisitionné par la résistance, ne leur laissant plus qu'une seule voiture pour descendre en Espagne, avec 2 familles. Jacques Bonnie, le fils de Pierre Bonnie, donc, décide de retourner à Paris pour aller en chercher une nouvelle.
Fin juillet, mon père me dit que nous allons partir en vacances. Au bout de 10 jours à la campagne, je m'ennuyais tellement que je revins à Paris en bicyclette. Mais la bataille paraissait se rapprocher de Paris. Je résolus donc de repartir le lendemain. Pour ce faire, j'allais trouver un ami de mon père, Joan Novici, qui possédait plusieurs voitures. Je pris l'initiative de lui demander de me ramener avec une de ses voitures. Il refusa. J'affirme que ce voyage ne m'était pas commandé par mon père. J'avais le seul but de me distraire et de revoir une amie.
À peine Jacques Lafont a-t-il tourné les talons que Johan Ovici fit le retrouver l'inspecteur Morin chargé de traquer des anciens membres de la carlingue. Il lui livre alors l'information capitale, la cachette de Lafont et Bonny. La police organise une descente massive le 30 août 1944. L'inspecteur, déguisé en paysan, effectue une première reconnaissance en prétendant chercher de l'aide pour son vélo crevé. Quelques heures plus tard, la ferme est cernée par une trentaine de FFI. Lafont et Bonny sont arrêtés sans opposer de résistance. Au même moment, Johan Ovici est récompensé pour ses services. Il se voit remettre un diplôme d'honneur. L'ère de la carlingue est bel et bien terminée.
L'audience est ouverte.
Le 1er décembre 1944, le procès des chefs de la rue Lauriston s'ouvre dans une atmosphère électrique. C'est le premier grand procès de l'épuration, bien avant ceux de Pétain et Laval. La presse est là, en nombre, avide de voir tomber les crapules de la Gestapo française. Oh, l'heure n'est pas au long débat. L'opinion publique réclame du sang, et vite. Et puis l'État a tout intérêt à clore rapidement l'affaire. Les chefs de la carlingue en savent trop sur les compromissions de la haute société parisienne avec l'occupant. Au tribunal, Henri Lafont se montre arrogant et jusqu'au bout. D'ailleurs, il assume tout. Le 6 décembre 1944, Bonny et 10 autres membres de la carlingue sont condamnés à mort. 10 jours plus tard, le 26 décembre, à l'aube, ils sont fusillés au fort de Montrouge.
Au palais de justice à Paris, deux traîtres ont été condamnés à mort pour avoir prêté aux Allemands une aide ignoble. Lafont et Bonny, les traîtres ont été condamnés à être fusillés par un peloton d'exécution composé de FFI.
En position ! Armée ! En joue ! Feu !
Selon la légende, Lafont refuse qu'on lui ligote les yeux. Le gouvernement, lui, a obtenu ce qu'il voulait, le silence. Car avec la mort de Lafont et Bonny, ce sont de nombreux secrets de la carlingue qui s'évaporent.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la carlingue. Notre invité, David Alliot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un spécialiste de Céline, de l'occupation et de ses personnages, et vous êtes surtout l'auteur de La Carlingue, livre publié en 2024 aux éditions Talendier. Déjà, le mot carlingue, d'où vient exactement ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, on le sait depuis peu. J'ai un lecteur du livre qui m'a envoyé la solution de l'énigme.
Tiens donc.
La Carlingue, c'était un restaurant qui était effectivement tout près de la rue Lauriston et qui devait son nom au fait que l'Aéroclub de France était juste à côté. Donc les aviateurs venaient régulièrement dîner à la carlingue, donc le restaurant, et donc a priori la proximité du lieu avec la rue Lauriston, les marlous y allaient aussi. Donc du coup, par extension, le siège social de la rue Lauriston est devenu aussi la carlingue.
D'accord. Alors vous avez écrit ce livre, c'est très bien, surtout quand on sait que Bonny a mis le feu à la plupart des papiers de la rue Lauriston avant la fuite des rats. Alors concrètement, pour écrire une telle histoire, que reste-t-il? Sur quoi on peut encore s'appuyer?
Alors il y a d'abord, effectivement, les archives stricto sensu de la carlingue ont disparu, et c'est bien dommage, mais il y a l'enquête faite par les policiers de septembre à décembre 44 qui est absolument extraordinaire. Donc c'est à peu près 7000 pages d'archives, hein, aux archives de la préfecture de police, et il y a le dossier du procès, qui est aux archives nationales, qui contient à peu près 7000 pages aussi, qui est énorme, avec notamment beaucoup de témoignages et de lettres de victimes.
Mais est-ce que ces inspecteurs, cette police-là, c'est heurté au dogme, on oublie, c'est le passé, il faut reconstruire la France. Est-ce qu'il y a eu cet obstacle-là?
Alors oui et non, pas au début, parce qu'en fait le général de Gaulle veut montrer que la légalité républicaine fonctionne, donc il veut un procès pour les gens de la carlingue. Mais on ne va pas attendre le retour des déportés, la fin de la guerre, etc. Parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. L'opinion publique réclame des têtes. Hein. La France sort de 4 ans de privation, d'humiliation et de crimes. Donc il faut que des têtes tombent. Or, le maréchal Pétain, Laval et autres sont à Sigmaringen. Ils sont hors d'atteinte.
Ah oui.
Donc il faut tout de suite... alors les premières têtes tombent, c'est les intellectuels. Hein. C'est Paul Schack, la carlingue. C'est des voyous, personne va les pleurer, personne va manifester en leur faveur, personne va demander leur grâce. Et en plus, on peut dire qu'ils ont la tête de l'emploi, quoi, la gueule de l'emploi. Ils ont semé la terreur dans le pays. C'est les bons clients pour les premiers grands procès de l'épuration. Et donc, à un moment donné, on dit aux enquêteurs, c'est fin octobre, hein, on leur dit, bon, c'est bon, ça y est, on a ce qu'il faut. Envoyez-moi une charrette au palais de justice. Et c'est effectivement les 20 premiers prévenus. Il y en aura d'autres après, par la suite, parce que certains ont réussi à s'échapper. Ça va s'étendre, on va dire, jusqu'en 54. Hein. Les derniers procès des Gestapis, c'est 54, les derniers fusillés.
Ah oui,
des
10 ans après. Hein.
10 ans après, au moment de Dien Bien Phu. Ça passe complètement inaperçu, parce que Dien Bien Phu tombe, mais les derniers, c'est en 54. On fait un procès pour la forme, mais tout le monde connaît le résultat à la fin.
Oui, mais bon débarras, de toute façon.
Bon débarras, tout à fait.
Est-ce qu'il existait d'autres Gestapo françaises, d'autres bandes concurrentes à Paris pendant l'occupation?
Oui, il y en avait une dizaine, en fait. La Carlingue est la plus fastueuse, la plus importante, la plus crainte. Et Lafont était vraiment le roi de Paris. Mais il y en avait une dizaine. Si elles étaient moins, on va dire, showbiz, moins paillettes, moins festives, elles n'en étaient pas moins cruelles et redoutables sur le terrain, oui.
Soyons clairs, est-ce que ces gens ont une idéologie ou simplement est-ce que c'est juste le fric qui les intéresse et sans scrupule?
Leur idéologie, c'est le veau d'or. Voilà.
Ah ça, oui.
C'est le pognon, le fric, mais c'est le principe de la mafia. Hein. C'est une mafia. C'est faire le maximum d'argent, un minimum de temps et sans s'encombrer de quoi que ce soit. Donc, on peut prendre par exemple le cas des Juifs, qui est assez emblématique.
Bien sûr.
S'il faut faire de l'argent en spoliant les Juifs, ils n'hésitent pas. S'ils peuvent faire de l'argent en sauvant des Juifs, ils n'hésitent pas. Leur seul intérêt, c'est le pognon, qui est prêt à payer. Et dans ce cas-là, tout est possible.
Et comment fonctionnait ce couple Carlingue, autorité allemande? Parce que les nazis mènent aussi une guerre mafieuse. Totalement mafieuse. Ce que fait Göring, par exemple, c'est le symbole de ça.
Mais de toute façon, l'Europe occupée est conçue comme un immense pillage.
Absolument.
Donc après, il faut structurer le pillage. La rue Lauriston, c'est le pillage économique. Il faut trouver, pour l'effort de guerre allemande, des quantités de matériaux énormes qui, effectivement, vont de tout, hein, du cognac, le vin, le champagne, jusqu'à, par exemple, de la peau de chamois. Les gens de la rue Lauriston ont été jusqu'en Savoie pour trouver de la peau de chamois. On pourrait dire, qu'est-ce que peut foutre l'armée allemande de la peau de chamois? Mais en fait, c'était pour la Luftwaffe. Mmh. Et les pilotes avaient besoin de gants chauds et pour renforcer la chaleur des vêtements des pilotes de la Luftwaffe. Mmh. Donc, il faut trouver la peau de chamois. Donc, la rue Lauriston se met à la chasse de peau de chamois.
Alors, puisqu'on parle d'argent, on a parlé des bureaux d'achat. Comment la bande de la rue Lauriston s'enrichissait-elle concrètement? Est-ce qu'on peut parler d'un pillage systématique et organisé du trésor français et des Français?
Bien sûr. On va prendre un cas très concret. Cher Fabrice, vous êtes un industriel prospère en province.
Tiens donc.
Moi, je suis Henri Lafont. Je viens vous voir parce que vous êtes un patriote, vous ne voulez pas vendre aux Allemands. Mm-hmm. Moi, je viens vous dire, j'ai entendu parler que vous aviez 25 tonnes de métaux rares et précieux qui valent à peu près 5 millions de francs. Moi, Lafont, je vous achète 10 millions de francs, payés en espèces sans aucune déclaration. Donc déjà, vous êtes content, vous faites une bonne affaire. Mmh. Sur un simple coup de fil, je les vends 40 millions de francs aux Allemands. Donc, j'ai rien fait et j'ai empoché 30 millions de francs. Donc, vos métaux partent pour l'Allemagne, tout le monde est content, sauf que les perdants dans cette histoire, c'est les Français, puisque les métaux partent pour l'Allemagne. Le perdant, c'est le fisc français, puisque tout se passe en liquide et on serre la main, donc aucune déclaration fiscale.
Ouais, bah oui.
Et qui paye, in fine, ces 40 millions de francs, c'est les Français. Puisque la France doit donner chaque jour 400 millions de francs aux Allemands, suite aux conditions d'armistice. Donc en fait, les Allemands ne payent rien, ils piochent dans ce que doit Vichy aux Français.
Donc Lafont est mort, riche.
Certainement, mais a priori, le trésor de la rue Lauriston n'a jamais été retrouvé.
Il y a des hypothèses?
L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il est parti en Amérique du Sud et qu'il a servi à la constitution de la French Connection.
Tiens donc.
Oui, en fait, il y a beaucoup d'avatars. Si les têtes de l'hydre ont été coupées en décembre 44, d'autres ont survécu. Donc, et il est probable que certains soient partis avec une partie du magot, et il est probable que le parti du magot a servi à la constitution de la French Connection en Amérique du Sud, promise à un bel avenir jusqu'aux années 70.
Jusqu'à Marseille, ouais.
Jusqu'à Marseille et aux États-Unis.
Alors Lafont règne en maître comme un chef mafieux, c'est-à-dire vulgaire, mégalomane, tueur, sans scrupules, très content de son pouvoir. Et Bonny, alors Bonny, on a l'impression que c'est un peu l'adjoint, enfin bon, c'est un peu l'idiot utile, non?
Bah c'est l'exact contraire de Lafont déjà. Hein. Ouais. Donc il est austère, il rigole jamais, il est fidèle à sa femme, enfin il fait jamais la fête. Ceci dit, l'immense avantage de Bonny pour la Kerlin, c'est qu'il apporte la rigueur de la police judiciaire. Avant, c'était un peu le grand n'importe quoi, le grand foutoir. Faut quand même pas oublier que les malfrats, en général, par définition, n'ont pas fait de grandes études. Alors que Bonny apporte la rigueur. C'est-à-dire qu'on ne torture, avec Bonny, on ne torture pas n'importe comment. On y va par strates et on réserve le supplice de la baignoire en ultime recours. Donc en fait, c'est la rigueur de la police judiciaire française. Faut pas oublier non plus que la police française était une des meilleures au monde dans les années 30. Que Bonny apporte cette rigueur dans une assemblée de malfrats dont la rigueur n'était pas franchement la qualité première.
Alors on sait que la police française a collaboré avec l'occupant. Qu'en est-il de ses rapports avec la Kerlin ? Y avait-il rivalité, hostilité ou parfois coopération ?
Hostilité et heurt en permanence. Sachant que les Allemands faisaient quand même attention à ce que le chaos ne soit pas total non plus. En fait, il leur fallait une police assez stable pour assurer la sécurité dans Paris, mais assez affaiblie pour pas ne représenter une menace pour les Allemands. On l'a d'ailleurs vu en août 44, quand elle s'est révoltée. Paris a basculé au moment où l'arrivée des Alliés. Avec cette police parallèle qui est devenue la rue Lauriston, le but était d'affaiblir la police française avec cette espèce de police parallèle qui avait des moyens disproportionnés. Et il faut imaginer aussi pour des malfrats qui étaient pourchassés en 39, présenter leur Ausweis et voir la police faire demi-tour. Ça devait être
c'est jouissif, jubilatoire.
Pour eux, c'était la fête. Ils avaient l'impunité totale. J'ai des cas dans les dossiers qui sont absolument abominables. Ils pouvaient rouler sur quelqu'un. Ils ont tué un enfant d'ailleurs. Ils ont roulé sur un enfant. La police n'a pas mené d'enquête parce qu'ils ont vu que la plaque d'immatriculation venait de la rue Lauriston.
Alors, y avait-il des résistants infiltrés à la Kerlin et des gens de la Kerlin infiltrés chez les résistants ?
Bah, si on écoute les gens de la Kerlin, ils étaient tous résistants à Londres. Hein. Donc, on se demande d'ailleurs pourquoi le général de Gaulle est parti à Londres. Il fallait mieux qu'il aille rue Lauriston. Il aurait été, ça aurait été certainement plus efficace. En fait, c'est le fonctionnement même du Marlou, c'est de jouer double jeu en permanence. À part Lafont et Bonny qui, eux, étaient mouillés jusqu'au bout, bien que Lafont a tenté à un certain moment de jouer un peu double jeu, mais en fait, les malfrats préparent toujours l'avenir. Et quand ils voient, eux aussi, qu'à partir de 43, ça commence à sentir mauvais, ben on prépare ses arrières, on échafaude des sorties, des plans de fuite, etc. Surgissent des certificats de résistance très bizarres, mais pour beaucoup, qui ne repose sur rien, à quelques exceptions près.
Alors, il y a beaucoup de personnages dans cette histoire de la rue Lauriston. L'un d'eux intrigue particulièrement, c'est Joseph Joannovici. Ah, je rappelle, c'est un milliardaire qui aurait livré la planque de Bonny et Lafont aux Alliés, d'abord est-ce vrai, et qui était ce personnage entre collaboration et résistance, le double jeu un peu habituel.
Ce qui est extraordinaire avec la Kerlin, c'est comme vous dites, il y a des centaines, des dizaines de personnages. On pourrait quasiment faire une série télé à la Netflix extraordinaire, avec tous les parcours, les vies, les actions qu'ils ont causées. Et Joannovici, c'est un cas le plus extraordinaire, c'est quand même un juif qui s'est mis au service des nazis. Donc il y en a eu quelques-uns quand même, hein, qui étaient protégés par les nazis. Et Joannovici, donc, est devenu milliardaire, en milliards d'anciens francs, inconcevable aujourd'hui.
Il trempait dans les bons d'achat ?
Et il trempait dans les bureaux d'achat. Il était protégé par Lafont. Et effectivement, en 44, bah, pour sauver sa peau, c'est lui qui va balancer la cachette de Bonny et Lafont. D'ailleurs, Lafont aura ce mot pour une fois que Joannovici donne quelque chose.
Et pourquoi Lafont choisit d'employer des Nord-Africains pour sa brigade ? Son armée, il rêvait d'avoir une armée.
Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que Lafont a fait son service militaire dans les bataillons d'Afrique. Comme c'était une forte tête, il avait été envoyé dans les bataillons d'Afrique. Et donc, il avait, au Maroc, à Tataouine, en Tunisie. Et il avait fraternisé, on va dire, avec ses soldats nord-africains qu'il appréciait humainement. Et il faut dire, en 44, quand il crée son armée, sa brigade nord-africaine, Bah, les Nord-Africains présents à Capitale, donc c'est Barbès, la Goutte d'Or, ils sont complètement coupés de leur pays d'origine, puisque l'Algérie, le Maroc et la Tunisie avaient été libérés par les Américains. Et donc, ils fournissent une sorte de main-d'œuvre pour Lafont, qui aussi les connaissait par la pègre, parce que les Nord-Africains étaient souvent utilisés pour les basses besognes dans la pègre, je vous laisse deviner lesquelles. Et donc, Lafont entreprend de démarcher, de leur fournir à manger, un uniforme, un bon salaire, à condition de venir avec eux pour constituer son armée, qui va être une catastrophe absolue. Hein.
Parce qu'ils sont pas disciplinés.
Pas disciplinés, mais discipliner des marlous, c'est impossible, quoi. C'est par définition. D'ailleurs, les coups de feu qu'ils vont faire contre les résistants vont se terminer en catastrophe pour eux.
Merci David Alliot, La Carlingue, la Gestapo française du 93, rue Lauriston, chez Talandier. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, La Carlingue, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait Jérôme Ragano.